Radio Cathy, grand témoin.
Vice-président honoraire de la République en charge de la Commission politique, défense et sécurité pendant la transition, président du Rassemblement congolais pour la démocratie et avocat, maître Azarias Rubera Manua est aujourd'hui l'invité de grand témoin. Maître Roubérois, soyez le bienvenu.
Si, monsieur.
Comment allez-vous?
Je vais très bien.
Vous avez occupé des grands postes de responsabilité à travers le pays. Nous allons passer en revue votre parcours. Je vous propose que l'on commence par votre enfance. Rougézi, assise dans le sud Kivu, est votre lieu de naissance. Le 20 août 64 est votre date de naissance. Vous êtes marié à Madame Chantal Namajana. Le 18 juillet dernier, vous avez totalisé 17 ans de mariage. Bon anniversaire.
Merci.
Vous êtes père de trois enfants, Christian, Ruth et Wilson Roubérois. Quel enfant étiez-vous vous-même?
Bien, très calme, très appliqué à l'école, obéissant aux parents et influencé déjà dès mon enfance par les valeurs chrétiennes.
Et le calme, vous l'avez gardé apparemment jusqu'à aujourd'hui.
Je pense que c'est vrai. Ma devise a toujours été, depuis l'enfance d'ailleurs, que le calme était le symbole de la sagesse.
Pouvez-vous nous raconter un souvenir qui a marqué votre enfance?
Il m'arrivait de passer des examens généralement comme premier de classe avec un pourcentage très élevé. Et j'ai vu au village, donc, nous sommes à Minembwe, des mamans, des autres amis, collègues, se fâcher, les frapper ou énerver du fait que leurs enfants ne faisaient pas autant de points.
N'étaient pas meilleurs que vous.
Exactement.
Donnez-nous quelques noms de ces amis d'enfance.
Il y en a beaucoup hein, qui n'ont pas fini l'université comme moi, forcément.
Des noms qui vous viennent à l'esprit.
Il y a Obadia, il y a, si vous voulez, Moutassi, il y a Zaché, il y a bien des jeunes gens qui étaient avec moi, qui n'ont pas forcément terminé les études.
Alors l'enfance, ça rime avec sport, jeux et musique. Donnez-nous quelques jeux, sport, musique d'enfance.
Justement, je n'ai pas évolué de ce côté-là. Je n'étais pas très abonné ni à la musique, sauf à la musique chrétienne. Parce que j'étais choriste déjà très jeune. Le sport n'a jamais été mon point fort, évidemment.
En tant que choriste, y a-t-il une mélodie d'une chanson qui vous revient pendant qu'on jouait? Que vous pouvez donner très brièvement.
Bien, j'étais choriste de l'école primaire, secondaire, oui, au début, à l'université, au campus de Lubumbashi, j'étais parmi les choristes. Je sais, par exemple, une chanson que vous chantez à Kassapa, cet été, on l'a trouvé, cet été, on l'a trouvé, bientôt, on va la quitter. Et le mot-clé, c'était, au Dieu maître, apprends-nous à compter nos jours. Que nos cœurs soient vraiment sages pour t'aimer et te servir.
Apparemment, vous avez un peu perdu la voix.
Je n'ai jamais été un bon chanteur. C'est pas mon don, j'ai d'autres dons, mais je n'ai pas le don de la chanson.
Rouberois Maniwa, que signifie votre nom?
Rouberois, c'est dans le langage donc, de ma communauté, c'est quelqu'un qui pratiquement est à la mode, quelqu'un qui, pour qui ça va, l'extérieur. Magnoa, c'est comme ça que l'on prononce, c'est la journée, c'est le symbole de la lumière, du soleil, de ce qui va.
Entre 71 et 77, vos études primaires, vous les faites hein, de la première à la cinquième à l'épée Ilundu et Kitazi dans la collectivité d'Itombwe. La sixième primaire, c'est à l'épée Minembwe à Fizi, toujours dans le sud Kivu. En 84, vous décrochez votre diplôme d'état des humanités pédagogiques à l'Institut de la Lukuga à Kalemie dans le Katanga. Pourquoi avoir choisi la pédagogie?
C'était pas mon choix. Mon choix, c'était la section littéraire. Et quand je suis arrivé à l'académie, j'ai voulu justement avoir l'inscription à l'Institut Lubuye, où il y avait, à l'Institut Mangaza plutôt, il y avait la section littéraire. Je n'ai pas pu avoir l'inscription, et donc c'est par contrainte que j'irai faire la section pédagogique. De sorte que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de mes auditeurs ou de gens qui me rencontrent pensent que j'ai fait la section littéraire. C'est à des fois que j'ai fait la section pédagogique, mais j'ai fini par l'aimer parce que la vie est aussi la pédagogie.
En 89, vous devenez licencié en droit option droit économique et social de l'université de Lubumbashi, les risques professionnels en droit zaïrois, les accidents du travail et les maladies professionnelles notamment, et le titre de votre mémoire de licence, quelles étaient vos conclusions?
J'ai eu affaire de recherche essentiellement à la Jacamine, donc à la division sécurité du travail, Jacamine Lubumbashi. J'ai été également à l'ICASI, où il y avait un département, si vous voulez, de la médecine du travail. J'ai fait des recherches qui ont donné des conclusions, et même à l'INSS, l'Institut de sécurité sociale. Les conclusions, c'était que nous avions une législation qui n'était pas appliquée. Donc, il faut... la législation, elle existe, quoique devant être actualisée par rapport à l'évolution du monde. Mais même celle qui existe, l'étude a démontré qu'il y avait un décalage entre le texte et la pratique. Donc, il faut une prise en charge beaucoup plus améliorée des victimes des risques professionnels, c'est-à-dire des accidents de travail et des maladies professionnelles.
Et aujourd'hui, vous pensez que ça a évolué ou nous sommes restés statiques?
Je pense que ça s'est empiré. À ce moment-là, quand je faisais des recherches, là, j'ai quand même marché encore. Je parie que toutes ces directions ont beaucoup perdu d'éclat. Je sais que l'ancien ministre de la Santé, qui a quitté dans les derniers remaniements, a évolué également comme médecin directeur et médecin dans la médecine du travail. J'ai eu à le rencontrer quand il était ministre. Je pense que la situation n'a pas du tout évolué. Il faut adapter notre législation, mais en même temps accommoder la pratique par rapport à la théorie qui est dans les lois.
Le 7 août 90, vous prêtez serment comme avocat stagiaire au barreau de Lubumbashi. Vous évoluerez dans le cabinet de Maître Mbou Netang. Vous êtes avocat inscrit au barreau de Lubumbashi, Goma et Kinshasa Gombe. Avec vos occupations, avez-vous le temps de prêter?
Il n'y aura jamais assez de temps. Mais par ailleurs, pour quelqu'un qui veut travailler, il y a tout le temps. Ça paraît paradoxal, mais c'est cela. Ça dépend de l'organisation. Je suis politicien, donc leader politique, je fais mes activités politiques, mais j'aménage mon temps de sorte que mon cabinet de Lubumbashi continue à fonctionner. À Kinshasa, je suis au cabinet quasiment chaque jour, à des heures déterminées, et à Goma, j'ai un correspondant. Au-delà de ça, j'ai d'autres activités, notamment dans l'organisation de petits déjeuners de prière. Et bien d'autres, je m'occupe aussi de ce qui est humanitaire. J'arrive à m'organiser de sorte que les facteurs temps ne soient pas un handicap à ma vision et à mes activités.
Azarias Roubéroa-Manoa, vous êtes vice-président honoraire de la République en charge de la commission politique défense et sécurité pendant la transition, président du Rassemblement congolais pour la démocratie et avocat. Dans les années 90, vous êtes membre du comité exécutif provincial du parti politique PNS au Katanga. De mai 97 à juillet 98, vous travaillez comme directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce qui vous attire en politique? Le barreau, ça ne suffisait pas?
Non, le barreau, ça ne suffisait pas. En fait, le barreau, c'est un métier professionnel que je garderai tout le long de ma vie. Mais j'ai compris que ça ne suffisait pas pour porter mon influence positive beaucoup plus loin. Comme avocat, j'ai plus d'influence dans le domaine judiciaire, les clients qui me côtoient et les adversaires, les juges, et ainsi de suite. Mais compte tenu des injustices que je voyais dans le pays, compte tenu des violations des droits de l'homme, compte tenu de la mauvaise gouvernance, lorsque le vent de la démocratie a soufflé, le parti de feu Maître Kisimbangoy était en train de recruter, à ce moment-là, à Lubumbashi. J'étais encore plus jeune avec des amis comme Mutumbe, l'honorable Mutumbe. Nous sommes en train dans ce parti et j'ai fait mes premiers pas en politique. Lorsque l'AFDL arrive, avec tout ce qu'il y avait eu comme exaction du régime Mobutu, en partie contre ma propre communauté, dont les droits étaient constamment bafoués, mais en général, compte tenu, si vous voulez, de la situation qui n'allait pas du tout sur le plan socio-économique, je me suis dit, j'ai fait mes premiers pas en politique, Dieu me guidera, et peut-être qu'un jour, je finirai par avoir une grande audience d'influence. Aujourd'hui, c'est un rêve, je dirais, à moitié résolu, même si le parcours continue.
Mais votre communauté, hein, la communauté Banyamulenge, vous en parlez tout le temps, vous en faites un cheval de bataille. Ce n'est pas de l'exagération quelque part?
Pas du tout. L'histoire est longue, hein, je ne saurais pas la résumer.
Toutes les communautés en RDC peuvent se dire minoritaires aussi.
Tout à fait, disons, le concept de minorité n'est pas forcément lié aux chiffres, aux membres. vous pouvez être une minorité qui brille, ça existe aussi. Mais dans le concept de minorité, en droit international, il y a l'aspect de l'oppression. Une communauté, quel que soit le nombre, qui est opprimée peut vivre, si vous voulez, des indices de caractériels d'une minorité. Je ne dis pas pour autant que d'autres communautés n'ont pas de problème. Je n'amène pas non plus tous les combats politiques que je mène sur ma communauté, mais je dis celle-là et d'autres dont les droits ont été bafoués ou sont bafoués ont droit aussi à la justice. C'est ça la nation. La nation, c'est cette conscience de vivre ensemble. La nation, c'est cette volonté de construire, si vous voulez, et d'aller de l'avant, de sorte que nous soyons demain comme les États-Unis ou d'autres nations du monde, avec la tolérance.
Azarias Roberoa Manois, vous êtes vice-président honoraire de la République en charge de la Commission politique, défense et sécurité pendant la transition, président du Rassemblement congolais pour la démocratie et avocat. De 1998 à 2003, vous êtes membre fondateur du Rassemblement congolais pour la démocratie RCD, où vous serez chef de cabinet département de relations extérieures, membre du comité exécutif et chef de département adjoint de relations extérieures, secrétaire général et chef de l'exécutif. Pourquoi avez-vous pris les armes? Vous êtes très profondément chrétien, mais fallait-il prendre les armes pour libérer le pays?
Absolument, je pense que c'est un concours de circonstances. Je ne pouvais pas le prévoir avant, mais c'est arrivé, déjà avec l'AFDL, parce que j'étais avocat à Lubumbashi quand j'ai quitté en 96 d'abord, en passant par Ndola, en Zambie. Et je me retrouve à Goma quelques semaines après pour avancer avec l'AFDL jusqu'à Kinshasa, où j'occuperai donc ces fonctions de directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères. Ce sont mes premiers pas vers la diplomatie, qui m'est resté d'ailleurs un domaine cher jusqu'à aujourd'hui. Mais après, avec le « ça ne va pas » de la FEDEL, il y aura cet autre projet, si vous voulez, de reconquérir le pays par des armes. Moi, je pense que c'est vrai, la conscience de chrétien que j'ai a été interpellée plusieurs fois en me disant « est-ce qu'il y faut ?» Mais c'est comme l'adage, comme on le dit, au grand mot des grands remèdes. Je crois qu'à un moment donné, il n'y avait que le langage des armes qui pouvait être entendu.
Mais ce langage des armes a apporté vraiment son cortège de malheurs, hein, avec des exactions, des viols, des vols. Et il y a même certains observateurs qui se disent « pourquoi pas vous voir à la CPI aujourd'hui ?»
Ils ne me verront jamais à la CPI, c'est leur rêve ou leur plaisir. Je n'ai jamais commis des exactions. Tout ce que vous lisez dans les médias a un côté exagéré. Du reste, je suis devenu président en 2003, donc au mois de juillet. C'était pratiquement beaucoup longtemps après la guerre, hein, la guerre au sens actif. Mais même pour ceux qui étaient présidents avant moi, nous n'avons jamais vu tenir une réunion au sein du Rassemblement congolais pour la démocratie pour la tuer. Il y a eu des faits de guerre, ils ont été amnistiés. Il n'y a pas eu des crimes, si vous voulez, avérés qui sont susceptibles, selon la compétence par rapport au temps et aux matières de la CPI, de nous être opposés. C'est vrai qu'il y a eu de faits de guerre, c'est vrai qu'il y a eu du monde d'hommes, mais cela est imputable aussi bien à ceux que l'on appelait rebelles, donc libérateurs, qu'à ceux qui, si vous voulez, défendaient le côté gouvernement d'alors. Moi, je pense que chaque pays a son histoire. Si le changement décrété par Mobutu en 90 avait réussi, sans avoir des transitions qui finalement ne finissaient pas, on n'aurait pas eu la guerre de la FEDEL, on n'aurait pas eu la guerre du RCD, du MRC et consorts. Donc, espérons simplement qu'on a tourné la page et que la démocratie aidant, nous allons aller de mieux en mieux le futur.
Donc, vous pouvez affirmer la main sur le cœur que devant l'histoire, vous ne vous reprochez rien.
Pratiquement pas, je ne me reproche rien. Je sais que l'organisation à laquelle j'ai appartenu comme mouvement politico-militaire a fait la guerre. Donc avec la guerre, il y a des victimes. D'ailleurs, comme je l'ai dit, c'est des militaires des deux côtés qui pouvaient soit mourir, soit commettre des exactions ou des bévues. Mais une responsabilité personnelle où j'ai donné l'ordre, où j'ai participé à une réunion pour agir dans ce sens, c'est absolument impossible.
Vous l'avez dit tantôt, depuis juillet 2003, à ce jour, vous êtes président du Rassemblement congolais pour la démocratie, ACD. Tout récemment, hein, c'est encore d'actualité, vous avez été désavoué par 15 des membres fondateurs. On vous reproche un certain immobilisme. N'est-il pas temps, Azarias Rouberoy, de faire autre chose?
Oui, vous le dites si bien. Le temps, je sais autre chose à part la politique. Je vous ai dit que je suis avocat actif. J'ai 45 ans au mois d'août, donc le 20 août, dans deux mois presque. Et j'ai des ambitions politiques nobles. Je pense que des hommes comme nous, avec des convictions solides sur le règlement de la nation, le pays a aussi besoin de nous. Nous sommes peut-être pas la majorité, je pense même qu'il y a ce qu'on appelle le reste de ce genre d'hommes. Maintenant, il arrive que ce genre d'hommes soit incompris. Lorsque vous parlez de l'intégrité aujourd'hui, les gens peuvent vous jeter des pierres. Lorsque vous parlez de l'honnêteté, lorsque vous luttez contre la corruption, vous dénoncez les injustices. Alors, les amis qui ont agi de cette manière ont monté un coup d'État, mais qui a raté, qui a manqué. Nous sommes à l'heure de la démocratie, je respecte nos statuts, j'ai un mandat. Dans mon second exercice, mon mandat est de 5 ans. Je viens de terminer 3 ans, bientôt j'aurai fini mon mandat. Si je décide de me représenter, alors ils vont m'opposer ma gestion ou les critiques. Si je décide de ne pas me représenter, peut-être que je ne me représenterai pas, ce sera un autre candidat qui pourrait être président de celui-là. Je n'ai aucune intention de rester président à vie, mais je tiens à ce qu'on respecte le texte. Mais c'est comme si on demandait au président aujourd'hui, vous êtes en plein mandat, arrêtez cette autre chose. Non, je crois qu'il faut aller dans le sens du respect des textes.
Mais le RCD, on ne le sent pas. Il y a des gouverneurs, des mandataires qui sont arrivés au pouvoir grâce à l'alliance avec la majorité présidentielle. Tantôt, on ne sait pas bien vous classifier. Vous êtes de l'opposition, vous êtes dans la majorité. Finalement, on ne vous sent pas dans les grandes questions de la nation. Qu'est-ce qui se passe?
Nous sommes très présents, nous avons des députés et des sénateurs. Lorsqu'ils s'expriment au Sénat, lorsqu'ils s'expriment à l'Assemblée nationale, c'est parmi les graves intervenants. Vous avez à l'Assemblée nationale Matadineng, quand il prend la parole, c'est le RCD qui prend la parole. Bonabandi, quand il prend la parole, c'est le RCD qui prend la parole. Moïse, Nyarugabo, Lola, Balamage, quand il prend la parole au Sénat, c'est le RCD. Donc c'est parmi les grands communicateurs, les grands intervenants. Allez dans les assemblées provinciales, nous sommes la troisième force avec 42 députés.
Et vous êtes de l'opposition, de la majorité.
Justement, voilà. Le problème que nous avons dans l'opinion, comme toujours d'ailleurs, c'est parce qu'on est généralement en avance par rapport aux autres. Sur cette question, il n'est pas dit qu'un parti politique qui est à tous les échelons du pays, à plusieurs niveaux, doit être totalement ou du pouvoir ou totalement de l'opposition. Ça n'existe pas en démocratie. Aller en France, en Belgique, en Grande-Bretagne, dans les vieilles démocraties, au niveau national, en effet, nous sommes dans l'opposition, mais dans certaines provinces, parce qu'il était impossible à l'UN de Jean-Pierre Bemba et à l'AMP de Joseph Kabila d'avoir des gouverneurs au Bas-Congo, à Kinshasa et dans le Bekassai, il fallait une tierce partie, entre guillemets, RCD, et c'est comme ça qu'on a composé avec la majorité pour avoir le gouverneur dans le Bekassai, au Bas-Congo, à Kinshasa. Sinon, il n'y aurait pas de gouverneur avec une majorité qualifiée. Donc, ça se vit ailleurs, mais on aurait voulu que le RCD soit totalement au pouvoir, soit totalement dans l'opposition à tous les niveaux. Là où nous sommes au pouvoir, nous assumons, et la gestion de Bas-Congo avec le vice-gouverneur qui est tout à fait très actif, nous engage à la fin de son mandat. M. Kapoku Trésor aura engagé la gestion du RCD à Kananga, quelles que soient les dirigeants que nous pouvons avoir aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut que les gens comprennent qu'en démocratie, on est au pouvoir ou à l'opposition, selon le niveau du pouvoir.
Alors, pour peut-être clore ce chapitre sur les RCD, vos divergences, comment vous entrevoyez l'avenir de ce parti dans cette ambiance de mésentente, de mécontentement?
Ben, disons, c'est le propre de toutes les organisations. Je ne connais aucune organisation, qu'elle soit politique, qu'elle soit religieuse ou autre, qui n'a pas son moment de crise. Et nous, au RCD, on est même habitué à des crises, et même à des crises majeures. Nous avons des capacités dans notre leadership de contenir, si vous voulez, ce qui dévie, c'est du déviationnisme pur et simple. Je lance d'ailleurs cet appel à tous les militants du parti, à l'intérieur de la République et même à l'extérieur, et j'informe l'opinion nationale et internationale, de considérer que selon nos statuts, et ce jusqu'à la fin de notre mandat, nous restons les seuls à engager le parti. Ceux-là qui se sont démarqués dans le déviationnisme devront, nous l'espérons, revenir à la raison, ou alors les instances du parti les jugeront. Mais ceci n'affectera pas ni notre vision et n'altérera pas, si vous voulez, notre détermination à être un parti modèle, à être un parti, si vous voulez, des valeurs et de bonne gouvernance.
De juillet 2003 à février 2007, vous prêtez comme vice-président de la République chargé de la politique défense et sécurité pendant la transition. En 2006, aux élections présidentielles, vous êtes sixième au premier tour sur 33 candidats. Peut-on considérer cela comme un camouflet, comme une vraie sanction?
Et pas du tout. Ça dépend de celui qui juge. Ça, c'est le fameux exemple d'un verre.
C'est quand même la sanction du peuple.
D'un verre à moitié plein, d'un verre à moitié vide. Je n'ai pas gagné les élections et dans tous les cas, il n'y avait qu'un seul candidat au présidentiel qui devait gagner. C'est Joseph Kabila qui l'a finalement gagné. Mais être sixième parmi 32 candidats, avec, si vous voulez, l'extrémisme qui avait été monté comme machine contre nous, en mettant sur notre dos n'importe quoi.
C'est une distinction pour vous?
C'est pas une distinction, ce n'est même pas une satisfaction, mais c'est un mot de part. Le problème, c'est que mes ambitions ne s'arrêtent pas là. J'ai compris que sur 32 candidats, une bonne frange de l'opinion et de la population congolaise m'a jeté son dévolu, ça veut dire m'a choisi. Alors, ça réconforte mes ambitions. Vous avez des présidents comme Chirac, comme Mitterrand et bien d'autres qui sont arrivés au pouvoir après autant de fois. Il n'est pas dit qu'on gagne une élection présidentielle au premier tour. Donc, je pense que que c'est nécessaire, cet exercice-là, c'était nécessaire, et je crois qu'elle nous encourage, si vous voulez, à aller de l'avant.
Vous militez aussi dans les droits de l'homme, vous avez également enseigné dans des universités et instituts supérieurs au pays et à l'étranger, vous avez tenu plusieurs conférences au pays également comme à l'étranger. Depuis 2005, vous et votre femme avez commencé une ASBL dénommée Congo Family Restoration, en sigle CFR, basée à Virginie aux États-Unis. Son objectif est d'aider les orphelins et enfants de la rue, construire des dispensaires, des écoles, etc. Mais pourquoi elle n'est pas basée ici, au Congo,
c'est un... Non, c'est une ONG de droit américain, mais qui s'est transposée au Congo et son siège au niveau national est à Kinshasa. Elle opère aussi bien à Kinshasa qu'en province. Donc, nous sommes ici, nous opérons, il y a des activités qui sont organisées, nous payons des minervales pour les enfants orphelins. Nous avons 50 enfants orphelins dont nous supportons le frais depuis déjà quelques années. Nous intervenons dans beaucoup d'autres domaines, comme vous l'avez cité, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Ceci, ça veut dire quoi? Au-delà de mes activités professionnelles d'avocat ou de leader politique, au-delà de mes activités spirituelles d'activité des jeunes de prière, il y a également ces activités humanitaires. Nous disons, Dieu nous a bénis, devons être une source de bénédiction pour les démunis, les faibles, les veuves, les orphelins, et j'en passe. Moi, je pense que ça nous donne l'équilibre qu'il faut pour ne pas ramener toute sa vie à l'égoïsme et à nous-mêmes.
Vous êtes profondément chrétien, on l'a dit, hein, vous êtes membre de plusieurs associations chrétiennes, citons la Ligue pour la lecture de la Bible, Full Gospel, Campus pour Christ, pour ne citer que celle-là. Je vous invite, avant de terminer cette émission, à suivre ce témoignage de quelqu'un que nous avons contacté pour vous et qui vous connaît.
Françoise Kenawatimanga, je suis avocate, je suis membre du gouvernement, je suis vice-ministre du budget, le tout dernier gouvernement de transition. Je suis aussi mandataire de l'État à la RCM, Régie des voies maritimes. Alors, c'est une question de savoir depuis combien de temps que je connais le vice-président du roi. Je dirais que je le connais, ça fait 17 ans, précisément en 1992. Je l'ai connu en tant que stagiaire, avocat stagiaire, au cabinet de maître Mbou Nenetang. Et puis, je le connais aussi parce que j'ai évolué longtemps dans son cabinet. D'abord en tant qu'avocat stagiaire, 2 ans. Et puis, voilà, jusqu'à aujourd'hui, je suis encore dans son cabinet. Actuellement, là, je suis à Lubumbashi, au cabinet de vice-président du roi de Lubumbashi. Je le connais aussi en tant que mon président du parti, parce que je suis membre du comité exécutif. Précisément, je suis secrétaire nationale chargée de la justice et je suis dans la liste des femmes, secrétaire chargée de la communication. Je le connais enfin comme étant un chrétien. C'est un monsieur qui a la crainte de Dieu, qui marche dans l'intégrité. L'honnêteté, pour lui, c'est vraiment comme une tasse de café. C'est un monsieur qui est attaché beaucoup à la justice. Et c'est un monsieur qui est très tolérant. C'est un monsieur qui est très réconciliant. Et il est tout et il aime la démocratie. Je pense, hein, très sincèrement, sa patience, voilà, c'est une qualité, mais pour moi, c'est vraiment un défaut pour lui. Sa patience, sa tolérance, ce qui pousse justement certains gens à en abuser. Il est trop tolérant, il est trop patient. Pour moi, c'est son plus défaut pour lui. Comme message, moi, je peux tout simplement, avec tout ce qui se passe actuellement, je fais un message d'encouragement. Qu'il se rappelle qu'on a déjà longtemps médité avec lui le passage de la mer Rouge du peuple d'Israël. Devant la mer Rouge, le peuple d'Israël qui a regardé à gauche, à droite, probablement il y avait des montagnes. Devant lui, il y avait la mer Rouge et derrière, il y avait Pharaon et toute son armée puissante. Qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait? Il a crié vers le Seigneur et le Seigneur a fendu la mer Rouge en deux et le peuple d'Israël est passé vers la terre promise. Courage, monsieur le vice-président honoraire.
Maître Azarias Fobera, je vous l'ai vu plusieurs fois, hein, esquisser un sourire, rester très calme, très pensif. Votre réaction?
Eh bien, disons, c'est d'apprécier le propos tenu par Maître Kena, que j'ai reçu comme stagiaire lorsqu'elle finissait d'abord son graduat et puis sa licence, parce que son père était directeur de Penaza à Lubumbashi et il était donc client de la société. Il a envoyé sa fille pour faire le stage dans le cabinet qui le défendait. J'ai eu à la former professionnellement comme avocat, mais en même temps à partager avec elle toutes ses valeurs chrétiennes Je suis content d'un tel témoignage, c'est une bonne chose.
On sent beaucoup d'émotion dans votre voix.
C'est tout à fait. Je pense donc qu'il y a des gens, c'est un témoignage en effet. Il y a que les gens qui vous connaissent vraiment, qui vous ont côtoyé au jour le jour, qui peuvent dire quelque chose valant autorité au-delà de cela qui peut mener des campagnes juste à cause de la perception.
Un message à tous les Congolais qui vous suivent en ce moment pour clôturer cette émission.
Je demande au peuple congolais et à tous les auditeurs qui me suivent aujourd'hui de recevoir ce message d'espérance. Tout n'est pas perdu pour ce pays. Le gouvernement qui est là fait ce qui a son pouvoir pour changer la situation. Malheureusement, elle est tellement profondément négative qu'elle évolue très lentement. Mais il y a des lendemains meilleurs. Ce passage de la Bible qui dit « Les ténèbres ne régneront pas toujours » s'applique dans notre cas. Nous serons une grande force demain comme nation.
Azarias Fouberois, merci d'être passé à Grand Témoin.
C'est moi qui vous remercie.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais Azarias Rouberois Manois, vice-président honoraire de la République en charge de la Commission politique, défense et sécurité pendant la transition, président du Rassemblement congolais pour la démocratie et avocat, à la technique Sylvain Baogueré, à la présentation Alain Irung. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci de nous suivre à Rouvézi dans le Sud-Kivu et partout dans le monde.